Et bonjour à tous, rendez-vous donc pour ce nouveau podcast quotidien avec le J-26. Alors, J-26, réveille ce matin avec un cardio qui a réaugmenté. Preuve que j'ai bien tapé dedans hier en vélo, je pense que ça a bien chamboulé le bordel. 45, ouais. 45 au cardio, forcément par rapport aux 38 de la veille, ça fait pas mal. Au niveau du poids, alors bah, là aussi on voit que ça a tabassé en vélo parce que je suis retombé à 58,4 à mon avis, un gros défaut d'hydratation, ça a dû me manquer un peu sur la fin. Et puis après, au niveau de la saturation, je suis descendu un petit peu, je suis à 97. Voilà. C'est amusant hein, de voir à quel point ça bouge. Juste parce qu'on fait un entraînement vraiment, vraiment un peu dur. Enfin, dur. Ouais, qui te prend la journée. C'est là qu'on voit quand tu bouleverses un peu tes habitudes, donc avec un entraînement sur la journée, par exemple. Derrière, le corps, il reçoit quand même. Ouais, il reçoit. Alors, petite question. Aujourd'hui, de Gauthier Perrault. J'ai choisi sa question sur le dopage. J'adore ce truc. Moi, je me dope et je vous invite tous à le faire aussi. C'est génial. Non, je rigole. Et c'est vrai que sa question est tout à fait légitime puisque Gauthier me demande, avec l'argent qui arrive petit à petit dans le sport, donc ben, j'imagine le trail, tu penses que le dopage va être de plus en plus présent dans le trail? Eh bien, Gauthier, c'est évidemment oui, puisque le dopage est forcément proportionnel à l'argent. Et là, vous pensez tous au foot. Et les plus débiles d'entre vous me diront « Ah bah oui, mais au foot, il n'y a pas de dopé !» Bah non, il n'y a pas de contrôle. Pas con les mecs. Pas de contrôle, pas de dopage. Et ouais. Et vous n'y avez pas pensé à ça hein? Pourquoi il y a des gens qui sont dopés en vélo? Bah parce qu'il y a des gens qui les contrôlent. En athlétisme, ils s'y sont mis un petit peu. Ça a fait du dégât. Hein. Chez les Français aussi. Hein, ouais. Ne rigolez pas là-bas dans le fond. Et ouais, ça se charge un peu là. Hein. Ça... On veut pas bouffer de gluten, mais se piquer la fesse avec des stéroïdes anabolisants, ça va, c'est pas grave, ça. ouais, non, mais moi, je mange pas de viande parce que j'ai la conscience animale, machin truc. Ah ouais, mais là, c'est les cétones que tu bois, là. Ouais, non, mais parce que c'est pas pareil. Attends, ta gueule. Donc ouais, c'est évident, en fait, Gauthier, plus tu vas mettre de l'argent dans le trail... Et plus il y aura des gens qui vont se doper, bah, exemple magnifique, hein, l'an dernier avec Marc Kangogo sur Sierzinal. Bon, lui, il était victime aussi d'un agent frauduleux, foireux, mais la base du raisonnement de cette espèce de gros enculé blanc roulant dans un BMW, un SUV comme par hasard, qui a dopé les noirs de service, hein, puisque le gars c'est vraiment un rabatteur. En fait, il en prend 5, il les charge. Il sait que les mecs, ils vont tous réussir. Il y en a un dans le lot, il va se faire choper, mais pas les autres. Et du coup, il est sûr de gagner, en fait. C'est magnifique, hein. C'est un jeu de hasard où t'es sûr de gagner. Donc, l'explication de Marc, c'était de dire « Bah ouais, mais avec la prime, en fait, je fais vivre ma famille pendant un an, tu vois. Bon, » je sais plus si c'était exactement ça, mais t'as compris le concept. Donc, bah, plus tu mets d'argent et plus il y aura de motivation à tricher et à battre les autres pour venir récupérer cet argent. Donc, évidemment, tu te doutes bien que le contrat d'un footballeur qui est à plusieurs centaines de millions d'euros, si tu veux, quand il se fait un petit bobo, on va pas dire « Tiens, et on va attendre qu'il guérisse dans 2 semaines. » Non, non, on va lui injecter des trucs et t'inquiète pas que le lendemain, il va courir sur le terrain, pas de problème. Donc ouais, là en ce moment, tiens, bah ça tombe bien, aujourd'hui j'ai croisé Martin Gaffury, tu vois, qui est à Tignes. Et justement, on discutait de ça. Puisque Martin, c'est un peu comme moi, il est effaré des contrôles antidopage dans le trail qui sont risibles, hein, disons-le. Et lui, il connaît beaucoup plus de contrats que moi. Et voilà, donc c'est lui qui m'avait affirmé qu'il y avait aujourd'hui plusieurs athlètes, alors c'est pas des Français, hein, bien sûr, qui sont au-delà des 100 000 euros à l'année. Enfin, du coup, on parle en dollars, mais... Et c'est pas forcément les meilleurs, hein. Alors, bien sûr, les meilleurs sont pas pauvres, mais... C'était assez étonnant. Et du coup, bah ouais, ce qu'il disait, c'est que quand forcément, quand t'as un tel argent, bah, tu peux tout te permettre. Tu vois, tu peux commencer avec autant d'argent, tu peux commencer à aller voir quelques médecins un peu spéciaux pour leur demander des protocoles. Et puis voilà, après ça roule, quoi. Parce que quand tu donnes un contrat élevé à l'athlète, l'athlète qui a le contrat élevé va tout faire pour conserver son contrat. Donc si à un moment donné, il est moins en forme, hop, on passe par la case produit. Et l'argent appelle l'argent. Donc, en général, les gens, plus ils sont riches, plus ils font attention à leur argent et plus ils ont envie d'en gagner encore plus. D'accord ? C'est un biais cognitif un peu débile, mais genre, tu prends quelqu'un là dans la rue comme ça, tu lui files 500 000 euros, bon, en théorie, il est plus ou moins heureux, il a peut-être quasiment plus trop besoin de bosser de sa vie. Et en fait, bah, le mec, il va plus ou moins mettre de côté, il va essayer d'en gagner un peu plus, etc. etc. Bah, c'est vrai que maintenant, on a aussi beaucoup de Mongols qui crament tout, mais ça, c'est des humains un peu bizarres. Alors, autre question, du coup, penses-tu que c'est pour le moment encore un sport très propre où il y a quand même pas mal de détails étranges? Bah, écoute, Gauthier, en 2015, Gonzalo Calisto s'est pas gêné pour prendre de l'EPO. Donc là, on peut pas dire « Ouais, mais j'ai pris un médicament à la pharmacie, j'ai pas fait attention, c'était dopant. » Non, 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 non. Hop, 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 hop. EPO, mon garçon, le type a volontairement voulu modifier son système hormonal pour battre des gens qui font de la marche à pied autour du Mont Blanc. Mais va te faire enculer, Gonzalo. Mais je vais te jeter dans le ravin cette année. Je vais te pousser comme une merde là quand je vais te doubler. Je vais te mettre un coup de bâton dans les côtes là. Puis tu me diras si ça guérit tout seul avec l'EPO là, trop de balles. Donc ouais, tu vois, Gauthier, on ne se prive pas hein, pour se doper. Et en plus, qu'est-ce qu'il avait à gagner en 2015? Alors ça, c'est fascinant. Je pense que c'est quelqu'un qui a un énorme melon et qui se nourrit de sa popularité, enfin qui est médiocre, hein, bien sûr. Mais bon, voilà. Donc moi, mon point de vue, pour connaître plus ou moins personnellement quasiment l'intégralité des gens forts, enfin ce que vous appelez les élites, parce que vous aimez bien les mettre sur un piédestal, pourtant beaucoup ne le méritent pas trop. Bah, c'est vrai qu'il y en a beaucoup où je suis déjà parti plusieurs jours avec, beaucoup sont des amis, etc. Et c'est vrai que je serais quand même tenté de me porter garant pour la plupart des gens. Je tomberais quand même de haut en apprenant qu'un Nicolas Martin est dopé. Voilà, j'en mettrais ma main coupée même, hein, tellement je le côtoie. Voilà, mais bon, globalement, tous ceux que je connais bien, j'ai pas trop de doutes dessus. À chaque fois, je les ai plus ou moins vu grandir, je sais d'où ils viennent, leur motivation profonde, etc. Après, tu peux te poser des questions sur des gens qui font des enchaînements. Tiens, bah, Courtney de Walter, par exemple. Tu peux te dire, quand même, c'est bizarre, elle gagne la Western en battant le record féminin. 3 semaines après, elle gagne la Hard Rock en améliorant son propre chrono de plus d'une heure. Elle décide de s'engager à l'UTMB, mais pourquoi ne fatigue-t-elle jamais? Est-ce qu'on est face à quelqu'un d'extraordinaire ou quelqu'un qui se charge? Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. Bon, je déconne, hein, ça se trouve, elle est juste forte. Et nous sommes peut-être au balbutiement du haut niveau en trail, ce qui expliquerait que pour le moment, c'est possible de faire ça. L'an dernier, on a Beñat Marmisol. Le mec, il arrive pour sa première année d'ultra, attention! Attention, hein, c'est pas un vieux de la vieille. Première année d'ultra, il gagne le Resto Nika, il fait un super chrono. 3 semaines après, il gagne la 6000D, il fait un bon chrono. C'est pas le record, mais il est pas loin. 1 mois après, il fait 6e de l'UTMB. Et puis 7 semaines plus tard, il se dit, bah tiens, je vais aller gagner le Grand Raid de La Réunion. Devant Jean-Philippe Tchoumi, qui est loin d'être un trou de balle, hein, quand même. Voilà. Le mec avait 4 mois de pic de forme. Bon. Pourquoi pas? Et puis il te dit qu'il dort 4 heures par nuit. Ah tiens. C'est bizarre. Moi, quand je dors 4 heures par nuit, je suis fatigué. J'ai vécu une dizaine de jours à mal dormir, là, avec l'accident de mon chat. J'étais une merde. Une bouse. Et lui, il gagne le Grand Raid de La Réunion. Ah bon? Mais comment ça se fait? Que se passe-t-il? Pourquoi? Quelles sont les explications? Alors, bien sûr, tu peux pas dire « Ah bah, il a fait ça ». Du coup, il est dopé. Ça, c'est la réflexion d'Antoine Vaillé. Donc, c'est la réflexion d'un alcoolique notoire, plus ou moins idiot. Remarquez, ça fait un pléonasme. Et on ne peut pas faire ce genre de raccourci. Par contre, légitimement, on peut s'interroger de certaines performances en disant « Ah bah tiens, quand même, c'est bizarre, ça me semble beaucoup, voilà. » Mais, bah, Beñat et Courtenay, c'est deux personnes que je ne connais pas du tout. Est-ce qu'il y a eu un changement dans leur vie, le travail, la famille? Tu sais pas, c'est comme Ben Diman. Il sort un petit peu de nulle part, mais en fait, avant, il faisait des très longues randos. Il est venu s'installer en France, puis d'un coup, il s'est mis à faire de la compétition, mais en fait, il avait un énorme bagage. Enfin, voilà, tu vois, il faut connaître l'histoire de la personne. Mais le problème majeur qui fait qu'on s'interroge sans cesse sur des performances sans pouvoir jamais avoir le fin mot de l'histoire, c'est qu'en trail, il n'y a pas de contrôle antidopage. Eh oui. Ah, c'est choquant, hein? Hein, c'est choquant. Pas de contrôle antidopage. Ah, mais comment tu peux dire ça? C'est pas vrai. Oui. L'an dernier, ils ont dû faire un contrôle au premier de l'UTMB. Mais il faut vraiment être le dernier des abrutis pour se doper le jour de la course. Faut remarquer, Didier Zago a réussi l'exploit. Un mec qui se dope, il se dope pas le jour J. Il le sait qu'il va être contrôlé le jour J. Il est pas con, le mec. Il est intelligent, c'est un tricheur, il a réfléchi à tout ça. Là, moi, tu me donnes, je sais pas, tu me donnes 100 000 euros, et je suis quelqu'un qui a aucune morale. L'an prochain, je te fais l'UTMB en 20 heures. Il n'y a pas de souci. À l'arrivée, tu me fais pisser dans un flacon, tu me prélèves mon sang, t'inquiète pas, il n'y aura aucune anomalie, t'inquiète pas. Par contre, toute l'année, j'aurais turbiné avec des produits, avec des protocoles bien ficelés, et je peux te dire que j'aurais passé un cap physiquement. Donc quand je me présenterai au départ, je serai clean, mais j'aurai 10 mois d'entraînement amélioré grâce au dopage. Tu récupères mieux, tu fais du seuil tous les jours, tu vois, des trucs géniaux, quoi. Attendez, j'ai soif. Une petite tisane, là. Tisane non dopante. Ouais, il n'y a aucun contrôle, en fait, en trail. Quand les cyclistes, et de plus en plus, les cyclistes commencent à regarder un peu le trail, parce que ils ont toujours un pote à eux qui a pris sa retraite et qui s'est mis à courir. Toi, ça, c'est un grand classique, ça. Merde. Et moi, j'en connais beaucoup des cyclistes pros, j'en côtoie quelques-uns autour de Chambéry. Et en fait, quand je leur dis ce que c'est la lutte antidopage en trail, les mecs sont choqués. Ils sont scandalisés de l'amateurisme de cette discipline. Mais pour eux, c'est la folie, quoi. Tout est autorisé, c'est incroyable. En trail, pour te faire contrôler, c'est simple. Tu vas avoir l'UTMB, les Templiers, mais je suis pas certain qu'ils le fassent encore chaque année, parce que c'est chiant. Hein. Cierzinal, les manches du Golden Trail, parfois, si t'as pas de bol, une manche du Trail Tour National, parce que ça dépend de la FFA, et le stage en équipe de France. Alors du coup, tu peux t'interroger quand un coureur refuse sa sélection en équipe de France. Surtout lorsqu'il a fait deuxième de l'UTMB, tu te dis, bah tiens, c'est bizarre, pourquoi il veut pas aller au Mondial ? Il a l'air fort pourtant. Mais encore une fois, tu ne peux que te poser des questions parce qu'il n'y a aucun contrôle qui vient légiférer tout ça. C'est ridicule. En cyclisme, il y a le système Adams, et ça, c'est une merveille. Donc le système Adams, qu'est-ce que c'est ? Le système Adams, c'est un logiciel dans lequel le coureur cycliste professionnel doit rentrer son emploi du temps. Je sais plus si c'est pour les 6 prochains mois. Enfin, en tout cas, tu dois remplir ton emploi du temps longtemps à l'avance. Tu vois, il faudrait que je demande à mon pote Geoffrey Bouchard, là, qui est à Chambé, là, qui guérit d'une vilaine chute, mais il va peut-être faire la Volta, d'ailleurs. Donc, tu remplis ton logiciel, tu mets ton emploi du temps, et les contrôleurs antidopage ont accès à ton emploi du temps, et ils sont susceptibles de venir te contrôler quand ils le souhaitent, de 6h à 23h. S'ils débarquent à 7h du matin à la gare d'Aix-les-Bains parce que j'ai précisé que je prenais un train à 7h30 et qu'à 7h du matin, ils ne me trouvent pas à la gare d'Aix-les-Bains, je fais ce qu'on appelle un no-show, c'est-à-dire que je ne me suis pas présenté à un contrôle antidopage. Et au bout de 3 no-shows, tu es considéré comme dopé et tu prends une suspension. Et en fait, en cyclisme, dès que quelqu'un fait un seul no-show, ses collègues le regardent comme s'il était dopé. Parce que c'est une faute professionnelle. Et tout le monde se dit, ouais, bah il a un truc à cacher ce jour-là et tout, il a joué avec le feu. Il s'est dit, tiens, c'est mon premier no-show, je l'utilise comme un joker. Parce que tu peux te charger la gueule comme une mule. Les contrôleurs, ils arrivent chez toi, t'ouvres la porte, tu leur dis, bah Roger, Bernard, allez vous faire enculer, là, devant la porte, là, dans le jardin, là. Enculez-vous, là. Et puis, moi, je me fais chauffer un café. Mais en fait, vous entrez pas chez moi, quoi. Sinon, je vous tabasse. Alors, Bernard et Roger, ils sont un peu choqués. Ils font, ah ben oui, ah bon, mais quand même. Ben nous, on voulait vous contrôler. Ah ben alors, mais du coup, ça vous fait un no-show. Et l'athlète, il te regarde et te dit, bah ouais, je m'en branle. Mets-moi un no-show, il n'y a aucune conséquence juridique. Donc, tu vois, c'est aussi pour ça que dès qu'il y a un no-show, en général, il y a suspicion, quoi. Donc, et les cyclistes professionnels ont aussi le passeport biologique. Donc, tu dois remplir avec des prises de sang des cases. Donc, par exemple, ton hématocrite. Et tu vois, moi, si je remplis mon passeport biologique, mon hématocrite, elle varie. Bah, la pire prise de sang que j'avais faite, ça devait être 41,5. Et puis, la meilleure, je crois que c'est, avant de monter à Tine, là, 43,5 en hématocrite. Bon, après le stage en altitude, j'arrive à 48. Mais ça s'explique par le stage en altitude, donc pas de problème. Et du coup, imagine, donc j'ai ce passeport biologique, tout le monde voit que je suis à peu près autour de 42% d'hématocrite. Et puis en février, je fais un contrôle antidopage, et là j'ai 49% d'hématocrite. Alors les mecs ils t'appellent, ils disent « Ah bon, bah c'est bizarre, d'habitude vous avez 42, là vous avez 49 ». Puis c'est marrant, quand je vois votre activité sur Strava, en fait, vous n'êtes pas du tout allé en altitude. Est-ce que vous ne seriez pas en train de nous la mettre, là ? Et donc là, entorse au passeport biologique, et paf ! T'es considéré comme dopé. Et toutes ces choses-là n'existent pas en trail. Donc, en trail, tu peux te doper toute l'année, vraiment sans craindre rien du tout. Et tu arrives à l'UTMB, tu fais attention d'arrêter ta cure suffisamment tôt. Hein, ça dépend un peu des produits et des dosages que tu utilises. Mais encore une fois, il y a des médecins qui te renseigneront très très bien là-dessus. Et du coup, tu prends le départ, t'es clean. Mais tu t'es entraîné comme une brute toute l'année. Et ça, c'est beau, ça. Donc ouais, non, en trail, pour l'instant, c'est vraiment open bar. Ok ? Voilà, donc moi, c'est un peu... pas mon cheval de bataille, parce que j'en ai vraiment... mais alors, rien à cirer que le mec à côté de moi au départ soit sozopé ou pas. J'en ai rien à foutre. Par contre, si je le sais, je vais le dire. Eh oui. Eh oui, tu joues, moi je t'encule en derrière. Par contre, ouais, quand tu vois... c'est pour ça que ça me fait marrer, là, leur pro-trail runner association. Donc les mecs veulent qu'on les paye, qu'on les respecte. C'est des starlettes, tu vois, c'est un peu des starlettes. Trop nourries aux likes sur Instagram. La pro-trail runner association, là, avec Pau Capel qui nous explique qu'il va travailler avec les organisateurs pour organiser des événements écologiques. Ouais, mec, arrête de prendre l'avion 12 fois par an, puis ça ira très bien, tu vois. Déjà, tu le prends qu'une ou deux fois, ça, peut-être ça suffit quand même, non ? Et donc, ces gens-là bah, revendiquent tout un tas de choses, pourquoi pas, hein ? T'as envie d'avoir des droits, c'est légitime, c'est l'humain est comme ça. Mais par contre, ils oublient un tout petit peu qu'en face, il faudrait mettre des devoirs, quand même. Et oui, c'est le truc chiant, là. Parce que moi, je veux bien leur donner des gros contrats et tout, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui légifère un peu sur le dopage, quoi. Faut leur mettre le système à l'AMS. Tu te revendiques comme professionnel du trail, tu es dans le système à l'AMS. Je pense qu'il faudrait faire ça. Parce que là, c'est la fête. C'est la fête. Ou alors, si c'est pas la fête, ça peut être la fête. Voilà, voilà mon petit Gauthier, je sais que tu vas être choqué, hein, mais effectivement, pour les gens qui aiment le dopage, le try running est vraiment une très très belle discipline, puisque tout y est permis. Bon alors sinon aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que c'est ça ? Ma montre, elle me dit, mais ta gueule ! Alors, ce matin, réveil, putain j'étais dans le gaz, hein. Waouh. Je suis allé courir, j'avais 3 heures à faire rando-course, mais plutôt rythmé, en essayant aussi de bien courir la descente. Et là, à Tignes, il faisait assez frais. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû mettre un collant. Dès qu'on passait les 2400 mètres d'altitude, il y avait un très gros vent. Donc bien sûr, quand il fait froid, ça casse énormément les couilles. Il y avait la grêle sur les sommets. Putain de grêle. Et ouais, c'était un peu hard là quand on était au milieu du parc de la Vanoise, là, c'était rugueux. J'étais avec Antoine Lallier, patriote qui s'entraîne pour la Leadville, qui est 4-5 jours à Tignes. Voilà, qui a bien couru. Et écoutez, la forme était plutôt bonne hein, pendant ces 3 heures de rando-course active, puisque bah, hier j'ai quand même fait 7 heures de vélo, c'est un petit peu dur. Avant-hier, je faisais 10 heures de rando-course. Et là, ce matin, j'ai couru, pas libéré, mais putain, je sentais qu'il y avait, du punch, il y avait de la patate. C'était pas mal, j'étais pas en mode cadavre, tu vois, comme j'ai pu l'être par le passé. Si tu réécoutes mes prépas de 2022 et 2021, à un moment donné, j'enchaînais 2-3 jours et je finissais sur les rotules. Et là, c'est pas le cas, donc j'étais bien content. J'ai bien fait ma mobilité pendant 15 minutes avant d'aller courir, donc ça, bon, c'est toujours les schémas classiques qui sont dans le livre « Savoir s'étirer » de Christophe Cario. Derrière un repas, comme d'hab, hyper clean. Je pense que la semaine prochaine, je vais m'autoriser, peut-être pas un resto, parce que je suis tout seul, donc c'est quand même glauque. Et le resto, moi, ça me fait un peu chier d'attendre, bon, sauf si c'est un anniversaire ou une connerie comme ça, mais bon, ça me gave un peu de perdre mon temps. Et par contre, ouais, je vais sans doute m'autoriser un petit bonjour là, à la boulangerie, je pense. Un petit café en terrasse, tu vois, des trucs un peu sympas comme ça. Sans tomber dans l'excès, mais voilà, une fois de temps en temps, et pas mort d'homme. Après, bah, j'ai... Tu vois, après le repas, je me suis dit, ah, je vais aller un peu sur mon téléphone, regarder un peu les news, tout ça. Comment vont les climato-sceptiques sur Twitter. Alors, c'est les mêmes. Ça m'a beaucoup étonné. C'est les mêmes... Les climato-sceptiques étaient anti-vax, tu vois. C'est une population de gens qui sont anti-tout. Alors moi, j'avais du mal avec le vaccin Covid. Hein. Je pense que j'ai laissé transparaître ça dans quelques-uns de mes discours. Mais par contre, avec le climat, tu vois, je suis plutôt OK. Là. Je me dis, ouais, en fait, il n'y a plus de neige l'hiver depuis plusieurs années. Donc, les abrutis qui vivent à Paris et qui ont eu 2 gouttes de pluie la semaine dernière et qui disent que du coup, il n'y a rien, en fait, putain, ils sont vraiment cons, en fait. Donc, c'est bien, ça m'a permis de bloquer tout un tas de gens qui étaient un peu borderline et qui polluaient mon fil d'actualité. Du coup, il m'est resté que des gens qui parlaient de vélo sur mon fil d'actualité. Et je me suis rappelé qu'il y avait les championnats du monde de cyclisme aujourd'hui. Alors, évidemment, j'allume Eurosport. Tu vois pas qu'il y a encore une fois... Putain, le climat encore. Des militants qui se sont collés la main au goudron. Putain, et les mecs sont quand même ravagés. Franchement, moi, je sais pas si j'ai du respect pour eux. J'arrive pas à définir le sentiment qui m'anime quand je pense à eux. Mais pour que je colle ma main à du goudron... Il faudrait vraiment... Genre, faudrait que tu menaces ma mère avec un fusil, quoi. Et que tu me dises, bah, si tu te colles pas la main au goudron, je la bute. Mais sinon, me coller la main au goudron parce que tous mes collègues se sont fait virer de leur taf ou des trucs comme ça... Pff, c'est ma main, quand même, hein. Donc ouais, je trouve ces gens très motivés, quand même. C'est impressionnant, putain, se coller la main à du goudron. Bref, donc, ça avait stoppé la course, ça m'a fait chier. Et du coup, je me suis dit, je vais faire une sieste. Et je suis pas arrivé à dormir, hein, je dors jamais. Mais putain, je me suis bien relaxé là dans le lit, j'étais bien. Et après, j'ai regardé les championnats du monde de vélo et je suis allé faire ma petite muscu. Alors, la muscu, parlons-en. Merde, où j'ai mis le papier là ? Allez là. Alors... Patrick m'avait mis une séance de pliométrie et tout, en courant un peu dehors, mais ça me fait chier. Et du coup, Mathieu, mon préparateur physique, en fait, m'avait remis une séance de musculation avec kettlebell, parce qu'il y a une salle de muscu ici à Tine, là, au Lagon. C'est très très bien fait. Et Mathieu m'a gentiment prêté sa kettlebell modulable pour pouvoir utiliser plusieurs poids. Donc la séance était comme suit, vous l'avez hein, sur le plan d'entraînement que j'ai publié vendredi dernier, donc vendredi 28 juillet. 3 fois 5 goblet squat avec 32 kilos. Ça c'est assez dur quand même. J'ai fait un petit échauffement, j'en ai fait 8 à 16 kilos, 6 à 24 kilos, puis après j'ai fait les goblet squat. Mais c'est un exercice que j'aime beaucoup. D'ailleurs, Mathieu, je sais que tu m'écoutes, parce que je t'ai dit d'écouter. Putain, le pauvre, il s'est farci 28 minutes. Ah ouais, putain, ça dure, là. Plus c'est long, plus c'est bon. Hein. Ah, elles disent tout ça. Pardon, c'est vrai que j'ai des patriotes féminines, maintenant, il faut que je modère mes propos, sinon je vais vraiment être catégorisé comme un énorme beauf. Ce qui n'est pas le cas. Hein. Je surenchéris l'humour à chaque fois. Donc Mathieu, écoute, le 3x5 goblet squat, c'est pas mal. Moi, je pense qu'on peut augmenter, là, faire 4x6 ou... 3x6 ou 4x5, je sais pas, donne-moi ton sentiment. Après, j'ai fait un Turkish get-up à 12 kilos pour m'échauffer, puis j'en ai fait 5x1-1. Ça aussi, c'est bien passé. Pourtant, à 16 kilos, d'habitude, j'ai du mal. Donc ouais, à voir. Après, il y en a quand même un ou deux où j'ai fait un petit faux mouvement. Donc bon, ça, on va peut-être conserver. Et après, il y a les fentes sautées. Alors, les fentes sautées avec 24 kilos, il fallait que j'utilise la kettlebell modulable. Et le problème, c'est que la hanche est droite et j'arrivais pas bien à réceptionner la kettlebell. Donc une fois que j'avais choqué à peu près toutes les personnes de la salle en la faisant tomber une fois, je me suis dit, je vais arrêter de faire l'intéressant. Et dans la salle, il y a des kettlebells à 20 kilos avec vraiment une forme parfaite. Donc j'ai fait mes fentes sautées à 20 kilos. Du coup, Mathieu, je te pose une deuxième question. Est-ce qu'on ferait pas, au lieu de faire 3 x 8-8, 4 x 8-8? Voilà, tu me donneras ton sentiment. Je pense qu'il faut durcir un peu, là. Durcir les squats, durcir les fentes sautées. Excusez-moi, je rote un peu en même temps. Peut-être un peu trop mangé. Et après, on avait les swings en apnée. Alors là, c'est où ça, merdé? Donc, un bloc de 4 fois 10 swings apnée à plein. Donc, vous faites... Vous inspirez, et une fois que vous avez plein d'air dans les poumons, vous bloquez votre respiration, vous faites 10 swings. À la fin des 10 swings, 30 secondes de respiration nasale, en expirant par la bouche en mode Dark Vador. Donc là, bah, tout le monde m'a pris pour un débile mental hein, dans la salle. Il y avait une fille qui faisait des squats à côté de moi, évidemment elle était choquée. Et après, vous recommencez la série, donc il faut en faire 4. On récupère 3 minutes, et après, alors, ça va, j'y suis arrivé. C'était dur, mais j'y suis arrivé. Et après, c'est là où ça a merdé, c'est l'apnée à vide. Alors, Mathieu m'avait dit, tu verras, c'est beaucoup plus dur. Et moi, vu que je fais jamais d'apnée et que je suis nul à ça, bah, je comprenais pas pourquoi. Et ben, j'ai compris. L'apnée à vide, donc tu fais... T'expires, tu vois, et quand t'as plus d'air dans les poumons... Hop là, t'es parti, tu fais 8 swings. Et en fait, là Mathieu, je pense qu'il faut que tu revoies le nombre de séries et tout, parce que moi, au bout de 4, j'ai envie de respirer, et si je respire pas au bout de 4 swings, tu peux être sûr et certain que je respire au 5e. Et genre, j'ai l'impression que je vais crever, hein, franchement. Donc le 2 fois 8 swings, bah, à chaque fois sur le 5e, il y avait une respiration. J'y suis jamais arrivé. J'ai jamais fait plus de 5 swings en apnée à vide. Donc peut-être il faut réorienter, je sais pas, peut-être 4 x 5, tu vois. Je sais pas. 4 x 5, je peux y arriver, je pense. Est-ce que c'est intéressant? Je sais pas. Et puis ça, il fallait le faire 3 fois, donc c'était un peu dur. Mais moi, je kiffe. Hein. Franchement, là, j'étais très fatigué de ma semaine parce que j'ai fait 31 heures de sport, presque 32. Et du coup, je vais à la salle de musculation le dimanche soir. C'est vraiment, c'est la fin, tu vois. Et là, le fait de manipuler la kettle, faire des beaux mouvements, être en force, en puissance, vraiment bien gainé de A à Z. Putain, ça m'a fait du bien. J'ai l'impression que ça m'a relancé, quoi. Donc, ouais, j'ai immédiatement prévenu Patrick sur Nolio de considérer que j'allais faire une séance comme ça par semaine. De toute façon, 3 semaines à Tignes, il faut au moins faire 3 muscles, hein, comme ça. Voilà. Écoutez, je vous laisse là-dessus. Demain, le programme, il est simple, c'est du repos. Donc, on va... Voilà, repos, quoi. On va assimiler, là, les longues distances avant d'en remettre. Et encore une fois, je vous renvoie au plan d'entraînement que j'ai publié vendredi 28 juillet sur le Patreon. Voilà. À plus, à demain pour le podcast quotidien.